Vous écoutez On lit pour vous.
Les libraires CRAC, livres pratiques, deux suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 6 décembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Guide de survie pour monoparental, Martin Goyette, Pratico-cuisine. Si on ne devait s'acheter qu'un seul livre de recettes en ce moment, je pense que ce serait celui-là. Il peut convenir autant à une personne monoparentale qu'à une famille nombreuse ou à un jeune qui part en appart. Bref, à quiconque doit se nourrir. Les recettes sont simples, sans être plates, et permettent d'organiser une semaine de manière à varier les repas et d'en avoir pour tous les goûts. D'ailleurs, les goûts, parlons-en. La majorité des recettes ont été approuvées par une petite bande d'enfants plutôt difficiles. Ce n'est pas rien, ça, dans une fille de famille. Un des éléments vraiment le fun du livre est l'index du début qui permet d'identifier des recettes en fonction de ce qu'il reste au frigo. Par Gabriel Simard, Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi. 2. 150 voyages romantiques autour du monde, guide de voyage Ulysse. Que vous soyez d'un naturel fleur bleue ou bien féru d'aventure, ce nouveau titre des éditions Ulysse inspirera vos prochaines idylles amoureuses. Surprenez votre bien-aimé avec une escapade historique au cœur des jardins secrets de Versailles ou bien gravissez ensemble le Machu Picchu. Les séjours se classent parmi 6 thèmes, du voyage au fil de l'eau à l'escapade galante, il y en a pour tous les goûts. Pour chacun d'entre eux, on découvre les lieux, mais aussi des idées de logement et le moment idéal pour partir. La diversité des voyages est pour moi le coup de cœur de cet ouvrage, sans oublier le détail romantique ultime, une idée par destination de l'instant magique qui saura faire chavirer le cœur de votre partenaire. Par Célie Chahal, Librairie Ulysse. C'était Les libraires CRAC, livres pratiques, deux suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 6 décembre 2023. Dans la revue Les Libraires.
Un Spanakopita sans Élise Gravel. Un texte de Jean-Yves Girard paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité. La star des livres pour enfants revient sur son ouvrage sur les stéréotypes de genre qui a fait couler tant d'encre et de fiel, s'affiche woke et assume son amour pour les blagues de pète. Un enfant m'a dit sur TikTok « Tes livres m'ont gardé en vie ». Je le sais que c'est vrai, c'est plus que touchant, c'est... Élise Gravel cherche le mot. C'est exceptionnel. Depuis plus d'une heure, l'autrice et illustratrice parle d'abondance, alimentant une conversation intense dont les digressions sont le sel. Je pense que tu es TDAH. Je le sens chez les gens. Elle-même a reçu ce diagnostic à 35 ans. J'ai trouvé des matsutakés cet été. C'est une espèce de champignon ultra rare et très cher, 1000 piastres le kilo, qui sent un mélange de cannelle et de vieilles chaussettes sales. Entre-temps, à notre insu, le café Lézard est mystérieusement passé de désert à bondé. Pour dire vrai, ce n'était pas gagné. À peine arrivée, Élise Gravel planifiait sa sortie. Une heure? Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ce serait si long. J'ai un rendez-vous. Assise sur le bout de sa chaise, elle a précisé avoir avalé un encas avant de quitter son appartement au coin de la rue. Devant un thé vert, elle a mis les choses au clair avec une franchise plus rare que les Matsutake. Mon travail dans la vie, c'est de dessiner dans mon bureau, non de donner des entrevues. Je n'ai plus besoin de le faire. 75 minutes plus tard, Élise Gravel ne cherche plus à jouer les filles de l'air. « Relax », me dit-elle. « On va prendre le temps dont tu as besoin. » Deux hommes s'approchent de notre table. « Excusez-moi, Madame Gravel, » commence le premier. « Je suis François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je voulais juste vous dire merci pour tout ce que vous faites. Mon fils est un fan, et moi aussi. Avoir su, j'aurais apporté ses livres pour les faire autographier. Je peux lui faire un dessin sur une serviette en papier. » Le second, resté en retrait, s'avance. Philippe Lopez, je travaille au cabinet du maire. Mes enfants sont des lecteurs aussi. Je sais que vous habitez le secteur. J'aimerais avoir une discussion avec vous pour un projet. Voici ma carte. L'objet de leur regard reçoit les hommages avec un sourire, puis prend la carte avec un conseil. Appelez mon agent. Pas de doute. Élise Gravel est une star dans son domaine. Après 20 ans d'activité, son nom est établi. Son visage, connu. Sa réputation, solide. Avec plus de 400 000 abonnés, Instagram, Facebook, TikTok et une soixantaine de titres publiés. L'un d'eux, une patate à vélo. La courte échelle, 2016, atteint les 125 000 exemplaires écoulés au Canada en version originale, en sut des milliers d'autres en espagnol, en allemand, en polonais et en chinois. Son public cible, se renouvelant sans cesse, le tubercule véloce a intérêt à maintenir la forme. Les bébés capotent dessus. Elle tente une explication, consciente que le succès bœuf d'une patate sportive n'a pas de recette. C'est drôle. Qui peut rester de glace devant un biscuit d'encens et un caca à lunettes, se justifiant ainsi? Sinon, je vois rien. C'est répétitif et interactif. Les bébés se font chatouiller à la fin. Ils ne savent pas parler, mais l'apprennent par cœur. La phrase est ponctuée d'un babille très réussi. Célèbre au Québec, l'illustratrice s'est également distinguée aux États-Unis, comme lorsque le United States Postal Services, USPS, l'équivalent de Poste Canada, a fait appel à son talent. Un honneur qui lui a inspiré cette réflexion sur Facebook. Je me sens comme la Céline Dion des timbres. Les Américains sont super, mais ils sont aussi hyper contrôlants, avec des dates limites impossibles, et ils te tiennent la main pendant que tu dessines. Comportement qu'elle abhorre par-dessus tout, mais qu'elle endure parce que, voyez-vous, c'est tellement payant, dit-elle. Cette franchise, toujours. Parmi ses autres faits d'armes, chez l'oncle Sam, le New York Times lui a demandé de dessiner en direct sur sa page Facebook. Alors qu'elle s'exécutait pour l'auguste quotidien, l'artiste s'est décrite brièvement, avouant, entre autres, aimer les jokes de pète. Et répète sensiblement la même chose au lézard. Je voulais faire une encyclopédie sur les pets. Elle a l'œil espiègle d'une fillette qui a prononcé un gros mot devant la visite. Les pets, c'est universel. Et c'est l'une des façons les plus simples d'entrer en contact avec un jeune. Oui, je suis une grande personne, mais toi et moi, on rit ensemble. La vlimeuse en insère partout. En couverture de « N'importe quoi », le petit cahier noir d'Élise Gravel. Dans « Le fan club des champignons », la veste de loup géante, si on marche dessus, pouf! Elle produit un nuage de fumée comme un pet. Dans la murale sur le thème de la diversité et de l'inclusion, inaugurée en septembre dernier, créée pour le Centre des sciences de Montréal, l'un de ces fabuleux monstres lance un « Oups !» car il a lâché un « Prout !» Point de prout dans l'œuvre qui a fait exploser sa notoriété, déjà plus qu'enviable, dans une couche de la population. Et ce, jusqu'au sommet de l'État. La bombe à l'origine de la déflagration est posée sur la table, entre son thé froid et mon deuxième allongé. Un œil non averti n'y voit que du feu. C'est pour ce bouquin que plusieurs ont pété un plomb? Le rose, le bleu et toi. Une idée développée de concert avec son éditeur américain, Random House Books, est sorti aux États-Unis en mars 2022 dans sa version originale. Pink, Blue and You a été long à écrire. On a consulté beaucoup de gens. Le contexte social et politique n'aurait pas pu être plus défavorable à un livre sur les stéréotypes de genre destinés aux bambins. Ron DeSantis, gouverneur républicain de la Floride et aspirant locataire de la Maison-Blanche, menait une croisade contre les LGBTQ en général et les personnes trans en particulier. À Dayton, 2500 habitants, dans l'État de Washington, la bibliothèque locale a été submergée de demandes pour que soient retirés de la section pour enfants des ouvrages idéologiques traitant du comportement, de la race et du genre, dont Pink, Blue and You. Nous avons reçu des menaces, a déclaré à la CBC le directeur de l'établissement qu'on a traîné dans la boue et qui a démissionné depuis. Il y a eu un effet boule de neige, même si c'était l'été. Mise au parfum de cette réaction, Élise Gravel est tombée des nues. Le message du livre, c'est que le genre, ce n'est pas ce que tu as entre les deux jambes. Ce qui dérange, d'après moi, c'est qu'on peut être les deux en même temps. Avec un garçon qui dit « Moi, je me suis sentie une fille ». Au contraire, le rose, le bleu et toi est débarqué au Québec sans faire de vagues, se souvient l'autrice. Jusqu'à ce que je raconte dans un article qu'il était banni de certains États américains. Les médias d'ici se sont alors emparés de l'histoire pour dire « Ils sont donc bien fous, les Américains ». Le 2 février 2023, l'Assemblée nationale adoptait une motion présentée par Manon Massé, à l'époque co-porte-parole de Québec solidaire, condamnant la censure aux États-Unis des livres signés Élise Gravel. Soudain, le vent a tourné dans la belle province. La question de l'identité de genre, jumelée à une drag queen, Barbada, lisant des contes dans les bibliothèques publiques et au crêpage de chignons sur le wokisme, a enflammé les chroniqueurs et déchaîné les trolls. J'ai dû engager une modératrice pour mes réseaux sociaux. J'ai fait un vrai burn-out. J'ai envisagé de prendre ma retraite. C'était trop dur, toute cette haine qui m'était adressée. Une semaine avant notre rendez-vous, Élise Gravel sirotait le même thé vert au même endroit avec Jagmeet Singh. Le chef du NPD avait demandé à la rencontrer. Il tenait à me dire « Je sais que tu reçois beaucoup de haine. Je voulais te dire qu'on t'aime et qu'on te soutient », relate-t-elle, encore soufflée. Il voulait aussi des photos. Sur Facebook, on les voit collés l'un contre l'autre, un turban rose pour lui, un chandail bleu pour elle, avec, entre leurs mains, son dernier né, Nutshimit, co-rédigé avec Mélissa Molène-Dupuis. En général, je ne travaille pas en collaboration. Je l'ai fait pour Le Rose, le Bleu et toi avec Michael Blais. Note de la rédaction. Jeune personne transmasculine, membre de Gris Québec, un organisme de sensibilisation LGBTQ. Et avec Mélissa pour Nutshimit. Je n'aurais pas pu écrire sans elle ce livre sur la vie en forêt des Innus. C'est une voix autochtone importante qui parle aux jeunes sans être déprimante. Certains abonnés ont tiqué devant le texte, commentant le cliché avec son admirateur néo-démocrate. Mon nouvel ami woke avec mon nouveau livre woke. Tant pis. Je m'assume. Quitte à perdre des fans en chemin. Être woke, selon ma définition, c'est être éveillé aux injustices sociales et vouloir les combattre. Et c'est tout à fait moi. Élise Gravel a été biberonnée aux valeurs altruistes et humanistes de ses parents, dont son père, François Gravel, également auteur, mais pas dessinateur, de livres pour enfants. Je me suis engagée envers la prochaine génération, celle de mes filles, qui ont aujourd'hui 15 et 18 ans. Je veux éveiller les consciences, ouvrir les esprits. Gros contrat pour lequel elle utilise sa tribune à bon escient avec des livres qui traitent des enjeux actuels. C'est quoi un réfugié? Ou encore, alerte, culotte meurtrière, fausse nouvelle, désinformation et théorie du complot. Et elle compte bien réduire la cadence des contrats d'édition pour consacrer plus d'énergie à son bénévolat. Sur mon site, les gens du monde entier, beaucoup de profs, téléchargent et traduisent mes affiches gratuitement. L'une d'elles l'a été en Tagalog, la langue des Philippines. Avant de me laisser en compagnie d'un Spanakopita, Élise Gravel y va d'une confession choc. Je n'ai presque plus envie d'illustrer. Elle caresse le projet d'écrire le journal d'une préado. Une fille qui est moi dans les années 1990 et qui a, sans le savoir, un TDAH qui lui fait vivre de grandes souffrances. Une autofiction sur la façon dont mon cerveau fonctionnait dans le temps et fonctionne encore maintenant, avec humour et compassion. Et peut-être un pet ou deux. C'était un Spanakopita sans Élise Gravel. Un texte de Jean-Yves Girard paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité.
« 246 fois », un texte de Marie-France Bazot, paru le 9 janvier 2024 dans la presse. Bonne année, chers lecteurs. Douceur, santé et les moyens de réaliser ce que vous voulez et de vivre agréablement. Ce n'est pas rien, ce souhait. Avoir les moyens. pas être riche de manière ostentatoire. Juste dépasser la ligne de flottaison, avoir les moyens de se loger décemment, de manger sans se questionner, de payer ses factures, et qu'il en reste assez pour s'offrir un supplément d'âme. Souhait d'une époque que la paupérisation gagne. Paupérisation n'était pas le mot de l'année 2023. Bienveillance était tellement omniprésent. Paupérisation, abaissement du niveau de la vie, appauvrissement en continu d'une classe sociale. Je vais en parler parce que la paupérisation n'est pas un accident de char, un état individuel ou une maladie subite. Elle survient sournoisement, mais résolument parce que les mécanismes de régulation ont dératé, parce que certains s'en mettent plein les poches et qu'on trouve normal de valoriser l'enrichissement sauvage de quelques-uns, le libéralisme économique débridé. Une nouvelle m'a renversée la semaine dernière. Le Centre canadien de politiques alternatives, qui mesure combien les 100 patrons les mieux payés au pays gagnent par rapport aux travailleurs moyens, a publié une mise à jour de ses compilations. Vous aviez l'impression que les inégalités se creusaient? En voici le film. En 2017, un patron gagnait 197 fois le salaire moyen d'un employé au pays. En 2018, 227 fois. En 2022, 246 fois. Rendu là, on parle de ratio d'inégalité salariale. Et encore, on parle uniquement de salaire, pas de rémunération globale, d'avantages fiscaux, d'actions, d'options, de dividendes, de parachutes dorés, de spéculation. Henry Ford, une des grandes figures du capitalisme du début du XXe siècle, le père de l'industrie automobile, le propagateur du travail à la chaîne, avait en son temps théorisé l'acceptabilité sociale de son sujet, la production de masse. Pour lui, un bon ratio afin que les ouvriers soient productifs et pour éviter l'explosion de la rage sociale était de 1 pour 40. Avant lui, fin 19e, le banquier J.P. Morgan avait établi le rapport à 1 pour 20. Ford, je le rappelle, n'était pas un philanthrope, mais un des capitalistes les plus prospères de son temps. Aujourd'hui, aux États-Unis, il n'est pas inhabituel, dans de grandes sociétés, qu'un patron gagne 1000 fois le salaire de son employé de base. Le ratio de 1 à 50 s'est maintenu jusqu'à la fin des années 1970 pour exploser ensuite. Le lien existant entre morale et capitalisme s'est rompu. Au Québec, nous avons progressivement vu notre société devenir toujours un peu plus inégalitaire, malgré notre légendaire filet social. Nos systèmes d'éducation et de santé à 3 et 2 vitesses n'en sont que quelques exemples. Dorénavant, la vulnérabilité n'est plus un concept. C'est une réalité visible à l'œil nu. Crise du logement, itinérance, banques alimentaires prises d'assaut, les repas à l'accueil Bono sauvés in extremis et temporairement. Et tant qu'à être dans le thème de l'inégalité, continuons avec les retailles de l'information du congé des fêtes. Dans la foulée de la proposition gouvernementale aux grévistes du Front commun et de la Fédération autonome de l'enseignement, à propos de la question du rattrapage scolaire au public, des orthophonistes ont accusé la grève d'avoir accentué l'écart entre les élèves. Certes, mais comment je te dirais bien ça? Qu'est-ce qui a creusé et élargi encore depuis des années et de manière systémique les inégalités entre les élèves? Qu'est-ce qui handicape la trajectoire de certains pour la vie? Ce n'est pas une grève pour de meilleures conditions de travail et d'enseignement, mais ce système d'éducation à trois vitesses, le privé, le public avec des projets particuliers et le public straight. Cette ségrégation est non seulement tolérée, mais propulsée. C'est elle qui stigmatise une partie importante des élèves, qui creuse les inégalités. Le recul et le retard de l'éducation publique sont palpables au Québec. L'inégalité, c'est de ne pas être dans la même situation au moment de faire des choix. C'est de décrocher, d'avoir une cinquième secondaire ou d'aller à l'université. La grande absente de ce conflit est la poignante question de l'inégalité des chances dans notre société, encore riche. Nous manufacturons en ce moment des laissés-pour-compte, de la misère future. L'inégalité est en voie de devenir une nouvelle norme. Évidemment que nous ne sommes pas tous égaux. Nos origines, notre histoire familiale, notre talent racontent une histoire. Tout le monde en convient. Par contre, la moindre des choses est de pallier les inégalités par des mesures redistributrices, progressiste, par des programmes sociaux, de l'aide ciblée. Les moyens sont nombreux et nous avons la chance de vivre dans une société qui y croit. Mais l'économie est implacable. Le libéralisme économique est devenu une idéologie impitoyable. La morale individualiste triomphante, dont les exemples viennent de haut, fait le reste. Ford, ce capitaliste triomphant, ferait aujourd'hui figure de scout semi-gauchiste. Souhaitons-nous en 2024 de la solidarité vibrante, de la morale accueillante et des outils concrets pour repriser le filet social. Et surtout, les moyens de faire comprendre au plus grand nombre l'importance de former une collectivité plutôt qu'une gang d'égo gonflés qui rêvent de faire 246 fois plus que leurs voisins. C'était 246 fois, un texte de Marie-France Bazot, paru le 9 janvier 2024 dans la presse.